Un texte suivant aussi. Attends, c'est quelle heure? Oh là là, bientôt l'heure. Ça va trop vite. La résurrection des morts. La résurrection des morts, là aussi, on va se référer à cette transcendance divine. Si vous voulez, dans la résurrection des morts, c'est une conviction qui apparaît en gros 2 siècles avant la venue de Jésus, avant son ministère. En 165 de notre ère, 165, 170 de notre ère, ou 170, 165 plutôt, dans l'ordre, avant notre ère, il y a la révolte des Maccabées, il y a les premiers martyrs, et c'est à ce moment-là qu'on a les premiers témoignages d'une foi en la résurrection des morts. Alors qu'ils auraient pu la trouver bien avant. Les Égyptiens parlaient sans cesse de l'au-delà, hein, ils connaissaient la tradition égyptienne. Comment est-ce que c'est né? C'est né d'une conviction progressive, une conviction progressive de ce qu'est Dieu, de ce qu'est cette tradition, et les premières expressions de cette foi de la résurrection, eh bien, ça a été les martyrs au temps de la révolte des Maccabées, c'est-à-dire dans justement cette époque de 2 siècles avant la venue du Christ, en 170-165. Et puis, il y a aussi le livre de Daniel qui est explicite en ce sens-là. Mais on ne trouvait pas dans les 5 premiers livres, donc dans la Torah, dans ce qui fait l'essentiel, on ne trouvait pas d'affirmation explicite. On va trouver des appuis. On va trouver des appuis, bien sûr. Et les premières expressions de la résurrection, on s'appuie sur la puissance de Dieu. Et ça a donné naissance à cette troisième prière des 18 bénédictions qui sont répétées quotidiennement. En tout cas, les 3 premières, celle du milieu, pas toujours, mais tous les jours, 3 fois par jour, c'est la bénédiction des puissances du Dieu puissant. Vous voyez ? Alors, voilà, tu es puissant, oui, c'est souligné, hein. Tu es puissant éternellement, Seigneur, qui fait revivre les morts, débordant de salut, nourrissant les vivants par amour et ressuscitant les morts par grande miséricorde, soutenant ceux qui tombent, guérissant les malades. Attends, oui, j'ai tout bougé, moi. Voilà. Guérissant les malades, libérant les captifs et maintenant sa fidélité à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme toi, maître des puissances? Il guérit les malades, il libère des prisons, tout ça, mais ça va jusque-là parce qu'il est puissant, sa transcendance. Alors, bien sûr, on trouvera ensuite dans l'Écriture des appuis sur cette Écriture. Et Jésus le fait quand il parle avec les Sadducéens, qu'il leur dit « Vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas lire l'Écriture ». Et vous ignorez la puissance de Dieu. Il leur fait ces 2 reproches. Vous ignorez la puissance de Dieu, la transcendance de Dieu. Hein, vous appuyez que sur l'Écriture et vous savez pas lire l'Écriture. Parce que dans l'Écriture, on ne va pas trouver des preuves. Ce n'est pas des preuves. Mais c'est des appuis à une conviction qui précède, qu'on possède. Et l'Écriture va nous donner justement des appuis. Et Jésus en trouve une en disant, quand Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », et c'est Dieu qui se promet de libérer son peuple d'Égypte. Ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. C'est un appui, c'est tout. Un bon sens. Alors, un autre épisode aussi, c'est un certain Gebiah ben Pessissa, un fils de le bossu, fils de Pessissa, que j'appelais. Il paraît qu'il était gardien du temple, du temps d'Alexandre le Grand. Donc c'est peut-être très ancien comme affaire. Hein. Mais ça naît, disons, la foi en la résurrection apparaît l'époque où je vous ai dit, hein, 2 siècles avant la venue de Jésus, 170-175. Là, c'est clair, on le sait. Et ce n'est pas un grand rabbin qui a dit ça ou un pape qui a dit « Mes amis, cette fois, nous allons tous croire à la résurrection des morts ». Non, c'est une reconnaissance globale de toute la communauté. Ça s'est cristallisé à ce moment-là. Alors, l'épisode sans doute, peut-être un juif, à l'époque, on croyait pas tous à la résurrection, hein, qui est contre, hein, qui dit à ce Gebiah qui y croit, lui, « Malheur à vous, mécréants, hein, vous dites que les morts vivront, alors que les vivants y meurent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'autre lui répond, « Ceux qui n'étaient pas sont vivants, ah, d'où venons-nous, vous voyez, hein, ceux qui n'étaient pas sont vivants. D'où venons-nous? Nous sommes vivants, ben c'est le Dieu créateur, hein, Dieu créateur. À plus forte raison, ceux qui ont vécu Et vivront-ils ? À plus forte raison, ceux qui ont vécu vivront-ils ? C'est une sorte de logique qu'on va retrouver chez Augustin, qu'on va retrouver ailleurs. Le saut du néant à l'être est porteur du saut de l'être vers l'infini. C'est une phrase d'un ancien maître, Pierre Lénard, là, que j'ai bien connu, qui expliquait comme ça. Deux visions du monde, ou le verre vide et puis le verre plein, je ne sais pas. Mais une certaine vision des choses, où on va à l'origine. On remonte à l'origine, d'où venons-nous ? Alors ce projet qu'on reconnaît comme un projet créateur de Dieu, est-ce qu'il est fait pour disparaître dans le néant et dans le rien ? Mais non, c'est une logique de création et de vie toujours croissante, plus grande. C'est tout conforme avec la tradition, tout cela. Alors, reprenons maintenant notre discours, et puis après on parlera du Sinaï. Avec Moïse, transcendance absolue et tout autre en relation avec notre monde. Dès le premier contact, cette transcendance se manifeste comme voulant s'expliciter à l'infini dans un peuple qui la reçoit. Le débat entre pharisiens et sadducéens révèle comment Israël a su éviter de chosifier la révélation dans une lettre sans vie. Il y a la lettre, il y a l'écriture, mais il y a tous le peuple qui va interpréter. À titre d'illustration, la confiance de Hillel dans la capacité du peuple à exprimer la parole de Dieu. L'Esprit Saint est sur eux, ce qui s'accorde avec l'idéal rabbinique d'être une Torah vivante. Enfin, les trois derniers exemples montrent l'absolue transcendance de Dieu, divine qui permet justement cette vie, cette multiplicité, cet infini, cette interprétation illimitée. Dieu a dit une parole, j'en ai entendu deux. Le sceau posé sur Adam, chacun peut dire le monde est fait pour moi, et enfin la résurrection des morts qui se réfère à la puissance divine. Alors, voyons, on a commencé par Moïse, on le retrouve maintenant au Sinaï, mais il n'est pas tout seul dans la tradition, mais il est accompagné, il y avait 600 000 juifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a les 600 000 qui sont sortis d'Égypte, mais en réalité, c'est tout juif qui est appelé à se situer, lui aussi, à la source, à l'origine, au pied du Sinaï. Et on se raconte le Sinaï comme une véritable fête. C'est un commentaire de Cantique Rabba, chapitre 1, paragraphe 1, qui dit... C'est une embrassade dans ce premier chapitre. Mon amoureux est là, etc. Alors, la parole s'adressait à chaque Israélite. Me prends-tu sur moi ? Il y a tant de commandements, tant de choses, tout ça. Et il répondait oui, d'accord. Et la parole l'embrassait sur la bouche, comme on dit de la Torah, comme c'est dit dans la Torah, de peur que tu oublies les paroles que tes yeux ont vues. Les paroles qu'ont vues tes yeux. On dit que, alors, dans cette fête du Sinaï, les Israélites s'enseignaient les uns les autres. En effet, chacun recevait la Torah selon sa force. Vous voyez, l'origine de Moïse, on y est tous présents, et chacun Israélite reçoit selon sa force, comme il est. C'est le dernier paragraphe. Les vieillards, viens-y voir, comme sortait la Torah d'auprès de chaque Israélite. Chacun selon sa force, les vieillards selon leur force. Les jeunes gens selon leur force, les petits selon leur force, les nourrissons selon leur force aussi, les femmes selon leur force, et Moïse lui-même selon sa force. Comme il est dit, la voix du corps allait s'amplifiant beaucoup. Moïse parlait et Dieu répondait avec une voix. Là, c'est juif, vous voyez, avec une voix. Pourquoi une voix ? Eh bien, la voix avec laquelle Moïse était capable de supporter, c'est plein, c'est tout. Ainsi est dit la voix, ainsi est-il écrit, voix du Seigneur dans une force, dans un psaume 29, voix du Seigneur, dans une force. Il n'est pas dit dans sa force, mais dans une force, dans la force de tout un chacun. Et aussi en ce que qu'on pense aussi aux femmes enceintes, c'était selon leur force, conclusion, chacun selon sa force. Donc dans le Sinaï, chacun reçoit cette parole, et on est invité à se situer à cette source, pour recevoir cette parole, chacun la recevra selon sa force, qui est unique, Et puis, c'est pour ça qu'on raconte que même au Sinaï, ils commençaient à s'enseigner les uns les autres. Alors, explicitation dans la vie quotidienne, là, il y a un texte qui suit d'assez près le premier que nous avons vu dans Avot, c'est-à-dire le Moïse qui reçoit la Torah au Sinaï, c'est le même corpus. Hein, qui, il est donné un conseil, que ta maison soit une maison de réunion pour les sages. Colle-toi à la poussière de leurs pieds et bois avec soif leurs paroles. Si tu as un sage qui vient, un maître, allez, va vite l'écouter, il va t'apprendre quelque chose, il faut que tu t'instruises, etc. Alors, on commente un peu plus tard, hein, agrippe-toi à la poussière de leurs pieds. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand un disciple des sages arrive dans ta ville, ne dis pas « Je n'ai pas besoin de lui ». Va au contraire auprès de lui et ne t'assois pas avec lui sur une couche, sur un banc, sur un tabouret. En sa présence, assieds-toi même le sol et reçois chaque parole qui sort de sa bouche avec frayeur, avec crainte, avec émoi et tremblement, de la même façon que nos pères reçurent la Torah au mont Sinaï. Donc, la Torah au mont Sinaï, c'est la Pentecôte juive. Hein. Eh bien, c'est comme le jour de votre Pentecôte, les juifs, c'est ça. Hein. Reçois cette parole avec crainte, émoi et tremblement. Crainte, émoi et tremblement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le Christ qui est l'un de 600 000 au Sinaï ? Le Christ est juif. Il a été formé par cette tradition. Il l'a reçu. Il a senti peut-être, enfin là, on ne va pas tout exprimer de façon absolue, mais c'était déjà dans la tradition, ça, hein, de se mettre au pied d'un maître comme on était au pied du Sinaï. Donc il a reçu cette tradition, mais il l'a reçue, selon notre foi, de façon pleine, de façon absolue. C'est-à-dire que recevant cette parole en tant que juif, homme juif, il reçoit cette parole et il devient cette parole vivante. Il devient de façon absolue. Comme c'est la vocation de tout juif, mais lui, c'est de façon totale. Et puisqu'il la reçoit de la façon absolue, il peut nous le livrer. Il est à la racine de ce don. Nous sommes aussi en communion avec lui. Donc, nous pouvons avec lui nous mettre à la racine de ce don de la parole. Toutes les fois qu'il se tourne vers le Père céleste, c'est bien ce geste-là qui est accompli, ce geste qui est d'abord un geste juif, premier à réaliser. Vous voyez ? Donc, nous nous mettons en relation, nous mettant en relation avec Jésus, qui lui-même, comme homme juif, qui se met en relation avec cette parole juive, avec celle de son peuple, eh bien, nous recevons à notre tour, cette tradition, nous entrons en second, dans cette vocation d'Israël qui est à développer toujours et sans cesse. Alors, c'est là que je vais terminer ici maintenant, parce que, comme Israël, témoin de la transcendance divine, premier, pour un témoin de cette transcendance divine. Il y a un texte de 1973, de la conférence épiscopale, je me rappelle quand il est sorti, hein, où on disait aussi dans ce texte que la première alliance est toujours en vigueur, ce qui avait provoqué des réactions à cette époque de grands théologiens qui disaient « c'est pas possible, nous avons une nouvelle alliance, la première est finie ». Non, ils ont commencé à affirmer ça déjà. La permanence commun vis-à-vis d'Israël et de l'Église est le signe de l'inachèvement du dessein de Dieu. Donc, signe de l'inachèvement, oui, hein, cette permanence, hein, Israël nous dit que ce n'est pas encore fini. Voilà, il est là, hein, ce n'est pas encore fini, on est en route, hein, nous ne sommes pas à la pleine rédemption, mais Israël est aussi témoin de la pénétration dans notre monde de ce dessein de Dieu, témoin d'une ouverture qui répond à notre besoin d'infini et qui nous met en état permanent de réception. Et si c'est état de réception, on peut dire, allons jusque-là, en état d'action de grâce, disposition radicalement opposée à celle de possession et de domination. Au lieu de nous emparer à notre profit de l'élection d'Israël, jusqu'à l'éliminer, acceptons le Christ qui va à sa propre tradition à l'intérieur de son peuple, qui nous introduit dans cette tradition et nous la recevons dans l'action de grâce. Nous acceptons d'y être inclus gratuitement grâce au Christ et ainsi de demeurer constamment dans une attitude de réception et d'action de grâce qui nous ouvre à autrui. Donc Israël, témoin de cette transcendance. Alors, il y en a qui ont, on a mis longtemps à comprendre tout cela. Israël, le premier, le Christ dedans, évidemment, qu'il accomplit pleinement, et pour nous, c'est le Christ qui nous y introduit avec lui. Donc il y a une sorte de plénitude, mais une plénitude à venir, une plénitude que nous recevons toujours plus. Eh bien, ça va être là ma dernière diapo, là. Il y a des gens qui ont compris cette vocation d'Israël, qui l'ont comprise de façon ténébreuse, en faisant appel aux puissances et à l'intelligence, entre guillemets, des ténèbres. Les évangiles nous rapportent un premier exorcisme avec les démons. Ils chassent les démons, et il y a un démon qui leur dit « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les puissances des ténèbres savent qui est Jésus. Ils connaissent. Eh bien, notre histoire récente a connu le sinistre avènement des ténèbres nazies, le nazisme, donc la Shoah, parce qu'on rejoint, et ces hommes ont fait preuve d'un étonnant discernement en reconnaissant dans le peuple juif leur ennemi par excellence, leur ennemi premier. Quand il y avait, à la fin de la guerre, il n'y avait plus de train pour les transporter, les opérations militaires, les soldats, ou transporter les blessés, il y en a toujours eu jusqu'à la dernière minute pour transporter les Juifs à Auschwitz. C'était l'œuvre essentielle. Pourquoi ? Parce que les Juifs étaient les ennemis premiers, profonds, les premiers ennemis des nazis. C'était leurs ennemis. Et les nazis s'étaient assignés comme tâche la plus noble, comme but primordial, l'éradication du peuple juif en tant que peuple. Il fallait qu'ils disparaissent, non pas supprimer la Bible, les supprimer, hommes, femmes, enfants, petits, grands, etc. Les supprimer en chair et en os, il n'y en est plus, hein, parce que le juif, l'incarnation même de la parole de Dieu, c'est dans la chair, c'est dans le sang et la chair, c'est là que, dans nos corps, enfin, c'est là-dessus que ça. Le Christ, la parole est devenue chair quand même, hein, le Christ est devenu chair, c'est ça, et ils en sont toujours témoins. Hermann Rofnin mentionne des mots de Hitler dans Hitler m'a dit, il dit un mot d'Hitler, il ne peut pas y avoir deux peuples élus. Si c'est eux, c'est pas nous. C'est nous qui nous élisons. Nous décidons de notre propre élection. C'est le pouvoir absolu qui va se traduire en haine, en cruauté, le plaisir d'annihiler l'autre, de le faire souffrir, de le réduire à rien. Parce que moi, rien que moi, la race absolue, donc on se coupe totalement de la transcendance divine pour la prendre à son compte. Et on sait à quoi cela amène. Et les nazis ne se faisaient pas trop de soucis à propos des chrétiens, et là, ils n'avaient pas tort. Hein. En s'attaquant à la racine qui te porte, ils savaient que l'arbre allait se dessécher. Alors, je termine par ce mot du père d'Aboville, donc supérieur général des oratoriens à l'époque. C'était en 75, le 30e anniversaire de la libération du camp de Bergen-Belsen. À la vérité, nous survivons tous, juifs et chrétiens, ici présents. Cela est physiquement vrai pour nos frères juifs. Voilà, bien sûr. Cela est réellement vrai pour nous chrétiens, car c'est ici que nous avons failli perdre notre identité chrétienne. Le crime était de vouloir anéantir le peuple juif et d'avoir osé entreprendre. Si le mystère d'iniquité, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, hein, si le mystère d'iniquité s'était accompli jusqu'au bout sur cette terre fertilisée par la croyance chrétienne, au nom du discours hypocrite qui osait en appeler à des valeurs chrétiennes perverties, la conscience chrétienne aurait été engloutie avec le peuple qui lui a donné naissance. La conscience chrétienne, non l'inconscience des chrétiens, car aucune conscience chrétienne ne peut subsister et se dire telle si elle ne reconnaît pas son origine permanente et son enracinement éternel dans la conscience juive. Voilà, à réfléchir.